L'heure du journal de Marc Potdevin. Bonjour Marc.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. La mort d'un ténor de l'édition, Jean-Claude Fasquel, décède à l'âge de 90 ans. Pendant longtemps, il a été le visage de la maison Grasset. Nous revenons sur sa carrière dans un instant. Des résidents d'EHPAD heureux après l'assouplissement du protocole sanitaire dans ces établissements. Mais tous les directeurs et directrices ne sont pas prêts à desserrer la bride, vous l'entendrez. Le mouvement a fait tache d'huile, 25 théâtres et opéras désormais occupés dans le pays pour demander la réouverture des lieux culturels. Nous serons à l'Opéra de Rennes. Les rugbymen du 15 de France font une croix sur leur rêve de grand chelem après leur défaite face aux Anglais hier dans le tournoi des Six Nations. Un espoir subsiste, et pas des moindres, l'espoir de remporter la compétition. Et puis dans l'esprit sport du handball, nous reviendrons sur le tournoi de qualification olympique et la rencontre tout à l'heure entre l'équipe de France et le Portugal.
L'invité à partir de 8h20 ce matin, ce sera l'historien Pascal Blanchard en tant que président du conseil scientifique de ce qu'on appelle les portraits de France, chargé de mettre plus de diversité sur les futures plaques des rues et autres statues des places publiques.
France Inter.
C'est un livre qui se referme, le livre d'une vie. Jean-Claude Fasquel est mort à l'âge de 90 ans. De 1969 au début des années 2000, il a piloté l'une des plus grandes maisons d'édition françaises, Grasset, d'abord comme directeur général, puis comme PDG. Il y a fait entrer Umberto Eco, le maestro italien, auteur du Nom de la Rose, mais aussi Virginie Despentes, autrice alors confidentielle à l'époque où son premier roman, Baise-moi, est publié. Virginie Despentes aux côtés de Jean-Claude Fasquel dans cet extrait de l'émission À Voix Nues sur France Culture, c'était en 2019.
Moi, je me souviens que je me suis attaché avec beaucoup d'acharnement à une jeune romancière qui n'est pas loin de moi. C'est vrai.
Comment vous allez la chercher, Virginie Despentes? Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça va fonctionner chez Grasset?
On voit que ça va fonctionner chez Grasset, il n'y a qu'à la lire. Pardon de dire ça devant vous, mais quand même. C'est épatant ce que vous écrivez. Non, mais il ne peut pas y avoir de doute.
Quand vous me rencontrez, quand vous m'expliquez pourquoi je serais bien chez Grasset, vous êtes quand même, je crois, un des seuls à le croire de la maison.
C'est aussi ça, c'est l'avantage d'être patron. On peut quand même suggérer à ces gens qui travaillent avec vous que c'est bien de faire ça.
Jean-Claude Fasquel avec Virginie Despentes dans l'émission À Voix Nues sur France Culture en 2019, avec eux également Élodie Degler, à l'époque directrice de la communication de chez Grasset. C'est donc un éditeur de légende qui s'éteint. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Parmi les grandes réussites de Jean-Claude Fasquel, porter les éditions Grasset au sommet, au même niveau que ses concurrentes Seuil ou Gallimard.
Oui, c'est une qualité qu'il tenait sans doute de son grand-père, éditeur de Huysmans et de Zola, le sens du défi et surtout le flair, celui qui permet de s'entourer des bonnes personnes, de dénicher les auteurs de talent. Et en la matière, le jeune homme avait démarré très tôt, à l'âge de 23 ans, reprenant le flambeau alors que son père avait pris un rapide passage à la tête des éditions familiales. Jean-Claude Fasquel, déjà taillé à l'époque comme un rugbyman, curieux de tout, aimant à la métaphore sportive, avait monté sa première collection comme un arme, un bateau. Ils sont ses auteurs, François Nourrier, Jean, mis en tout jusqu'au
début. Ah, je crois que nous avons perdu
Corinne Pellissier, effectivement, qui nous parlait de la mort de Jean-Claude Fasquel, grand nom de l'édition, mort à 90 ans de cet éditeur.
Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle annoncée en début de week-end.
Oui, vaccinés ou pas, les résidents d'EHPAD pourront avoir plus de liberté avec l'assouplissement du protocole sanitaire dans ces établissements. Cette annonce fait du bien à Roger, résident d'un EHPAD de Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris.
Je trouve que c'est pas mal, ça. Hein. Des amis qui vont pouvoir venir, effectivement, oui. Parce que c'est vrai que d'être enfermé comme ça dans les chambres, non, c'est pas vivable. C'est infernal. Là, on est en groupe et puis on était séparés par bâtiment, par étage. C'était infernal. Ouais. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus vivable. Bon, alors, petit à petit, ça s'améliore, mais c'est long, hein.
Roger, résident d'un EHPAD de Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, avec Sandrine Etoa-Andegue. Pas sûr toutefois que ce protocole sanitaire assoupli soit appliqué partout. Ce sont les directeurs et directrices des EHPAD qui ont le dernier mot. D'où ce débat entre Élodie et le directeur de l'EHPAD de sa mère, près de Nice.
On la voit pas souvent et ça serait bien de pouvoir l'emmener un petit peu à la maison. Ou ça serait bien de sortir. Elle est là depuis le mois de juillet. Elle n'est jamais sortie de la résidence, en fait.
On va être très prudent. On va attendre. La seule réponse que j'ai à vous dire, moi, c'est le taux de contamination et le risque des mutants qui sont là aujourd'hui, aussi bien l'anglais que le sud-africain.
Peut-être, mais c'est aux parents de faire attention qu'elle n'ait pas de contact avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc il y a de la place, il y a la mer, donc si on fait attention, peut-être ça ne sera pas dangereux.
Ici, aujourd'hui, c'est un havre de sécurité. Le mutant peut arriver que de l'extérieur, donc il faut être très vigilant.
C'est très dur, mais je comprends. Et nous, on attend, on est toujours là, on essaye de venir le plus souvent possible. Pour qu'elle ne nous oublie pas.
Élodie, fille d'une résidente d'un EHPAD de Villeneuve-Loubet, près de Nice, et le directeur de cet établissement avec Kevin Blondel de France Bleu Azur.
Et en dépit des annonces de retard de livraison qui s'accumulent, eh bien le gouvernement veut toujours accélérer la vaccination.
Certains pharmaciens ont ainsi commencé à injecter le vaccin AstraZeneca. Hier, les pharmaciens de 6700 officines dans les départements sous surveillance, ils ont reçu un flacon de ce sérum avant le week-end. Parmi eux, Christine Beer, qui travaille dans une officine du 13e arrondissement de Paris.
On a reçu le flacon à 16h passées. C'était un gros stress. Je voulais pas prendre de rendez-vous avant d'avoir le flacon dans la main parce qu'on a quand même toujours un petit aléa de livraison. Le soir à la fermeture, j'ai appelé mes 10 patients. Il y a quand même presque plus de 100 personnes en liste d'attente. Donc ça a quand même été...
Déjà, oui.
Quand on a dit que la pharmacie pourrait vacciner, ils sont venus spontanément dire « dès que vous pouvez ». Et ce qui est super pour nous, c'est que les gens nous font confiance depuis qu'on fait la vaccination contre la grippe. Il y a pas mal de gens qui disent « non mais moi je veux que ça soit vous qui me vaccinez comme pour la grippe ». Et donc on a trié nos patients en fonction de l'âge, des comorbidités et puis de la disponibilité des gens. Je les ai appelés un par un hier soir, ils étaient tous très très contents. Oui. Et j'ai donné des rendez-vous tous les quarts d'heure.
Christine Beer, pharmacienne dans le 13e arrondissement de Paris avec Hélène Chevalier. 25 théâtres et opéras désormais occupés en France pour demander la réouverture des lieux culturels, y compris l'Opéra de Rennes. Une trentaine d'intermittents membres de la CGT à l'intérieur depuis vendredi. Maxime Glorieux, ils n'ont pas prévu de partir.
Les intermittents ont reçu le feu vert du directeur de l'Opéra de Rennes. Les voici donc installés. On retrouve Laurent Voiturin, comédien et membre de la CGT Spectacle d'Ille-et-Vilaine, dans les coursives transformées en dortoir et sans déranger les répétitions dans la grande salle.
Moi je dors là, évidemment qu'il n'y a pas de répétition la nuit. C'est allumé, mais c'est pas grave. Vous êtes combien à dormir ici? On doit être limité à 30. Donc la nuit dernière, on était une quinzaine. Et puis on va se relayer les uns les autres pour pouvoir occuper le lieu tout le temps.
Une jauge de 30 personnes a été instaurée à l'entrée où l'on peut lire sur une pancarte « Ici, action inutile faite par un milieu non essentiel ».
Pourquoi nous on ne travaillerait pas? Il n'y a rien qui justifie l'interdiction des spectacles. Ce n'est pas dans une salle de spectacle qu'on prend plus le Covid. Nous sommes des artistes et des techniciens qui voulons être reconnus pour notre travail, pas pour le fait que nous sommes chômeurs.
Le lieu n'a pas été choisi au hasard, comme l'expliquent ces deux comédiennes, membres de la coordination des intermittents et précaires de Bretagne.
C'est aussi un lieu très central, très visible.
Et dans les imaginaires aussi collectifs, l'opéra, c'est quand même une charge symbolique très très forte, quoi. Donc ça prend aussi une certaine valeur.
Combien de temps on va rester? Jusque tout le temps qu'il faudra? Plusieurs semaines? Plusieurs mois? Qui sait?
Pour le moment, les intermittents organisent des assemblées générales quotidiennes et des agoras publiques devant l'opéra.
Reportage de Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Une marche blanche pour Alisha en début d'après-midi à Argenteuil, près de Paris. Alisha, adolescente de 14 ans, morte en début de semaine dans cette ville après un différend avec deux de ses camarades de classe. Cette marche partira du lycée où elle était scolarisée pour rejoindre les bords de Seine. La jeune fille a été retrouvée noyée dans ce fleuve.
En Allemagne, c'est le début aujourd'hui d'une année électorale très riche.
Oui, et ça commence avec deux scrutins régionaux dans le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat. Une année électorale couronnée dans 6 mois par les élections législatives. Ces deux premiers scrutins ont donc valeur de test pour les partis, à commencer par les conservateurs de la CDU qui doivent tourner la page Angela Merkel. Ludovic Piétenu.
C'est le coup d'envoi de ce que les Allemands surnomment la super année électorale. Et en même temps, c'est un baptême du feu pour Armin Laschet, élu à la tête du Parti chrétien-démocrate il y a tout juste 2 mois, et pour ainsi dire toujours en période d'essai, avec l'espoir d'être désigné bientôt candidat à la chancellerie. Il y a encore 15 jours pour lui et la CDU, ce double scrutin régional se présentait sous les meilleurs auspices. La troisième vague vient de tout balayer. Chute de la confiance dans l'opinion, plusieurs ratés successifs dans la gestion de la crise sanitaire et la campagne de vaccination. Ajoutez à cela un scandale. Des députés du Parti conservateur ont profité de la pandémie pour s'enrichir en jouant les intermédiaires pour des fabricants de masques. Dans le Bade-Württemberg, les instituts de sondage prédisent à la CDU le plus mauvais score de son histoire. Dans l'autre scrutin, en Rhénanie-Palatinat, il y a clairement aussi un avant et un après scandale. Avant, les conservateurs étaient donnés gagnants face à la sortante social-démocrate. Après, elle sort en tête des 5 dernières enquêtes réalisées ces 10 derniers jours. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
À 8h10 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
L'équipe a fait un gros match. Les mots du sélectionneur du 15 de France après la rencontre face au rugbymen anglais hier. Un gros match, oui, mais ça n'a pas suffi. Victoire du 15 de la Rose, 23-20. Les Britanniques s'imposent grâce à un essai inscrit dans les 5 dernières minutes. Résultat, le rêve de grand chelem s'envole pour les Bleus. Ils gardent toutefois une chance de remporter le tournoi des 6 nations. Fanny Lechevestrier, après la défaite, les Bleus veulent relever la tête.
Bien sûr, au coup de sifflet final, il y avait des genoux à terre, comme ceux de Gaël Ficou, des regards dans le vague aussi, comme celui de Fabien Galthié, conscient que son équipe est passée tout près de quelque chose de grand, d'un exploit qui leur tendait les bras. Et si on ne fera pas l'injure, comme par le passé, de parler de défaite encourageante, il y a pourtant, pour le sélectionneur ce matin, bien de quoi saluer la performance des Bleus.
Pas trop fier des joueurs, fier de leur solidarité, je pense que c'est un match qui fait grandir. Il n'est pas gagné, nous voulons le gagner, nous avons senti que nous pouvions le gagner. Il y a 2-3 moments importants, 2-3 moments clés qui font que c'est bien. On apprend, l'équipe apprend.
Car ces Bleus-là ne sont pas le genre à s'apesantir. À peine le match terminé que le capitaine Charles Olivon avait déjà réuni ses hommes bras dessus, bras dessous au centre du terrain pour penser à la suite qui peut encore être belle.
Il y a un goût un petit peu particulier dans la bouche. On est bien d'accord, mais voilà, on est toujours dans le coup pour gagner le tournoi. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de garder ce positif. Ça change rien au plaisir qu'on a d'être entre nous, ça change rien... Au plaisir qu'on a de défendre ce maillot, ses couleurs et compter sur nous pour rien lâcher.
Et oui, à défaut de grand chelem, le 15 de France peut en effet encore aller chercher un premier tournoi depuis 2010. Cette équipe n'a donc pas fini de nous faire stresser et surtout vibrer.
Et la prochaine fois, ce sera samedi. Le 15 de France reçoit le Pays de Galles pour son 4e match du tournoi des 6 nations. Ce sera aussi le premier des Bleus à domicile. Les handballeurs français, eux, sont aux portes des Jeux de Tokyo prévus l'été prochain. Ils ont reporté leur 2e match du tournoi de qualification olympique. À Montpellier, hier, victoire contre la Tunisie, 40-29. Dernier duel pour les Bleus, ce sera ce soir face au Portugal. L'équipe portugaise, récemment endeuillée par la perte de son exceptionnel gardien, Alfredo Quintana. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
C'est à lui que vous dédiez votre esprit sport ce matin.
Son nom est dans toutes les têtes ce week-end. Alfredo Quintana n'avait que 32 ans. Il a succombé à un arrêt cardio-respiratoire survenu à l'entraînement fin février. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc parmi ses coéquipiers et l'ensemble des joueurs internationaux qui admiraient son talent et appréciaient sa personnalité, à l'image de l'ailier droit de l'équipe de France, Lucas Vallo.
Il y a des joueurs qu'on respecte pour leur niveau de jeu et pour l'humanité qu'ils dégagent sur le terrain. Quintana, c'est vraiment quelqu'un qui a montré beaucoup de positivité et de motivation. Je me suis remémoré les moments de joie qu'il pouvait véhiculer sur le terrain et envoyer. Du coup, c'est un bel exemple, ce joueur.
Avec son club, Quintana, avec le FC Porto, pardon, il brillait en Ligue des Champions. Il était aussi devenu un des piliers de la sélection nationale. Et pourtant, à l'origine, il n'était pas portugais, mais cubain. Ils sont plusieurs dans ce cas-là, des joueurs nés à Cuba, puis naturalisés. Quintana, lui, avait rejoint son pays d'adoption en 2011. La filière est un vivier de talents pour la sélection portugaise qui monte en puissance ces dernières années et commence à faire trembler les meilleures équipes européennes. On pense à l'Euro 2020 et à la défaite de la France 28-25, essentiellement liée aux arrêts d'un gardien hors du commun incertain. Alfredo Quintana, 9 arrêts fermes ce jour-là. Son absence pèse à présent sur l'équipe portugaise qui tente donc ce week-end de se qualifier pour ses premiers Jeux Olympiques. Mais pour aller à Tokyo, dans la mesure où les Portugais ont perdu hier soir, ils ont besoin impérativement de battre très nettement les Bleus ce soir et d'attendre aussi le résultat de l'autre rencontre du tournoi entre la Tunisie. Tunisie et la Croatie.
L'Esprit Sport avec vous, Laetitia Bernard, merci.
Dans le journal de Marc Potvin, merci Marc. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec du soleil pour certains, Jean-Michel Golinski.
Le soleil le plus durable sera aujourd'hui pour les régions se situant sur une diagonale Méditerranée centre Val de Loire basse Normandie Bretagne avec de rares ondées pour le quart nord-ouest, un vent à 50 km à l'heure près de la Manche et de l'océan, vent plus turbulent sur les régions méditerranéennes vers 80 km par heure pour le Mistral et la Tramontane, 120 pour les rafales d'ouest sur le relief corse et le nord de l'île. Du nord-est à Rhône-Alpes, fréquente giboulée toute la journée, mêlée de grésils et de flocons jusqu'en plaine et de neige à partir de 600 mètres sur tous les massifs, le tout poussé par un vent turbulent et attention au risque d'avalanche de plus en plus marqué sur les Alpes. Cet après-midi, il est prévu 7 à 9 degrés dans le nord-est, 10 à 12 en Rhône-Alpes, au nord de la Loire et dans le sud-ouest, et 14 à 17 près de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.